France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Peut-on entreprendre une approche phénoménologique et sociologique des sanglots? Et si les pleurs étaient également le fruit d'une construction sociale, historique et médiatique, les pleurs sont un langage, un topos philosophique, un rapport au monde et une expérience de l'impuissance, mais aussi, paradoxalement, une expression de la puissance. C'est ce que nous enseigne Elena Ferrarese. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie, morale et politique à l'université de Picardie. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et vous venez de publier ce très bel ouvrage intitulé « Une philosophie des sanglots » qui vient de paraître donc aux éditions Rivage. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Merci.
Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Et perdument. Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
La cérémonie des Césars, la 50e, c'est ce soir, mais celle que l'on vient d'entendre, un extrait, c'était en 1996. La voix, les pleurs, les sanglots même d'Annie Girardot. Et vous l'écrivez, hein, Estelle Ferrarese, les sanglots, c'est un langage, un topos philosophique. Comment est-ce que vous interprétez donc ces sanglots, ceux d'Annie Girardot?
Alors, j'ai l'impression qu'en fait, on ne pourrait pas vraiment parler de sanglots. Puisqu'en fait, je fais une différence assez, enfin, qui est basée sur une réalité médicale, qui est quel est l'organe impliqué qui déclenche le phénomène. Les sanglots, ça part vraiment du diaphragme. Mm-hmm. C'est une convulsion du diaphragme, hein, qui se complique d'une résonance des lèvres de la glotte. Ça, c'est la définition médicale. Et c'est vraiment quelque chose qui va complètement hacher et le souffle et la parole. Et ensuite la pensée, enfin, et là elle peut vraiment parler. Alors il y a quelques moments d'apnée ou en tout cas de respiration difficile. Et donc c'est pour ça que je pense que ça nous permet surtout de mettre le doigt sur ce qui est propre aux sanglots, c'est-à-dire cette impossibilisation de la parole, cette attaque contre le logos, qui là n'a pas véritablement lieu. On a plutôt l'impression, enfin, d'une sorte de continuité entre ce qui est dit et ce qui s'écoule des yeux. Hein. Il y a un texte de Beckett que j'aime beaucoup qui s'appelle Texte pour rien, dans lequel il dit je pleure sans discontinuer, c'est un flot ininterrompu de mots, de larmes, je les confonds, mots et larmes, mes mots sont mes larmes, mes yeux, ma bouche. Il me semble que là, on voit qu'elle est en fait, tout est cousu ensemble. Et donc, c'est pas véritablement, je crois, une logique de sanglots, là.
Et c'est une chose, justement, sur laquelle vous insistez énormément, hein, dans la logique des sanglots. C'est une impossibilité qui nous envahit, hein, impossibilité de parler, une impossibilité de laisser son propre corps s'exprimer, une impossibilité également de voir l'esprit se déplier, agir, être comme il a l'habitude d'être, justement. Comment est-ce que vous vous approchez cette impossibilité induite par les sanglots?
Alors bon, c'est quelque chose qui bon, déjà est décrit par Diderot, qui a fait une description assez fine dans Entretien sur le fils naturel, hein, dans lequel il explique c'est ce phénomène d'abord des paroles qui se découpent, des syllabes qui se découpent, et le fait que tout simplement la pensée s'effondre. Et de fait, si vous êtes pris par des accès de sanglots, vous allez vous rendre compte qu'il est assez difficile de maintenir un flux, cette espèce de dialogue qu'on a avec nous-mêmes en permanence. En fait, il l'empêchait. Des fois, il s'interrompt complètement. Parfois, il ne surnage que des petits slogans, des choses qui se répètent sans grand sens. Parfois, ce sont simplement des images. Et tout ceci est vraiment activement rendu impossible par le sanglot. C'est-à-dire que c'est le corps qui produit un « je ne peux pas ». C'est pas simplement un simple dépérissement, l'activité principale du corps qui irait vers autre chose, c'est qu'il y a une sorte de chaotisation qui est une attaque d'un certain nombre de facultés qui sont aussi les facultés qui font de nous un sujet. Puisqu'il s'agit de la parole, puisqu'il s'agit de la pensée, enfin c'est vraiment le logos là qui est menacé.
Vous dites, hein, Estelle Ferrarese, je vais y arriver, Estelle Ferrarese, vous expliquez, vous écrivez que l'on fait corps avec l'impuissance lorsqu'on est pris par les sanglots. Qu'est-ce que cela signifie, faire corps avec l'impuissance?
En fait, il y a dans les sanglots une sorte de fermeture sur cette expérience y a une fermeture, une clôture par rapport aux autres, une repoussée du monde, qui est une manière d'habiter c'est ce moment des sanglots, hein, tout le reste part à l'arrière-plan, ne prête plus attention, et même très physiquement, en fait, si vous regardez ce qui se passe, on se plie vers l'avant, souvent on porte les mains vers le visage, et donc c'est vraiment une manière à la fois de se dissimuler à autrui, mais aussi de dissimuler autrui à soi-même. Donc cette espèce de clôture, c'est une manière d'empêcher, de prévenir par avance tout ce qui peut nous être dit, tout ce qui pourrait nous parvenir de notre environnement, et c'est de cette manière que l'on fait corps avec son impuissance, puisque on exige en quelque sorte la saturation, hein, en repoussant par exemple toute tentative de consolation. En fait, on exige d'être complètement saturé par cette expérience qui surgit, là, comme vous le disiez, en général à l'occasion d'une impuissance. C'est-à-dire, c'est un deuil, c'est une rupture amoureuse, c'est un échec professionnel. Et tous ces exemples nous mettent face à la limite de nos pouvoirs, de nos puissances habituelles. Je n'ai rien pu faire pour empêcher son départ, sa mort ou mon licenciement. Et donc cette impuissance que vient de me signifier la vie, hein, c'est-à-dire voilà, tu ne peux rien faire, bien le corps redouble cela en empêchant les quelques facultés qui nous permettraient peut-être de mettre un peu d'ordre ou un peu de raison ou de nous amener vers autre chose. Donc en fait, il y a une sorte d'impuissance au carré, je dirais, qui fait que voilà, on n'est plus que cette impuissance. Et c'est pour ça qu'on fait corps avec elle. Nous ne sommes plus que cette impuissance pendant quelques instants.
Est-ce que lorsqu'on sanglote, on est par ailleurs, dans le même temps, frappé d'abandon de sa propre responsabilité, pour reprendre l'expression sartrienne, Sartre qui disait justement l'abandon de la responsabilité?
Alors effectivement, il a cette approche assez critique des pleurs comme d'une sorte de, alors c'est pas vraiment le mot qu'il emploie, mais d'une sorte de ruse, hein, ce qui est qu'en fait, comme beaucoup d'autres manifestations
émotionnelles, de technique presque.
Oui, c'est ça. Comme beaucoup d'autres manifestations émotionnelles, les larmes nous permettraient finalement de nous en sortir le moins mal possible dans une situation particulièrement compliquée. Pour moi, dans les sanglots, en tout cas, c'est pas forcément ce qui se passe. Il y a véritablement une démise, une destitution du sujet qui s'opère à ce moment-là. Et j'allais dire, en quelque sorte, pendant ce temps-là, c'est rien n'est sauvé. Enfin, il n'y a pas une sorte d'optimum qui serait malgré tout garanti dans une situation particulièrement complexe.
J'aimerais vous faire entendre un extrait des Pieds sur Terre qui a été réalisé par Élise Andrieux, diffusé sur France Culture évidemment en octobre 2024. Et on entend là une description justement de ce que sont les pleurs, les sanglots.
En général, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais... Ou alors plutôt, je sais que je pleure, mais pas forcément pour... Enfin, il y a quelque chose qui me fait pleurer, qui vient d'un truc autour de moi. J'ai plusieurs larmes. J'ai les larmes quand je suis fatiguée, ou les petites larmes qui sortent de mes yeux tout doucement. Mais ce sentiment de fondre en larmes, quoi, c'est vraiment... C'est vraiment comme un gros truc qui déborde d'un seul coup. Et c'est hyper chaud, parce que en général, d'ailleurs, j'ai un peu la gorge qui se serre d'abord, j'ai un peu les joues qui deviennent toutes rouges, je sens que j'ai un peu plein de chaleur qui monte au visage, et après, d'un seul coup, ça explose, quoi. C'est un peu vraiment comme un volcan et comme un... Une fois que ça commence, si j'essaye de contrôler, après, je me mets à octer, et c'est physiquement une lutte pour le retenir, quoi.
Avec l'équipe de Questions du Soir, on trouvait cet extrait, on trouvait qu'il résonnait avec votre travail, parce qu'il y a là la description, à travers les larmes, à travers les sanglots, carrément d'une décomposition entière de l'être et du corps également.
Oui, absolument. Il y a une chaotisation du corps.
Une chaotisation.
Ouais, qui est opérée. C'est-à-dire que les traits habituels se défont, les traits du visage. La posture habituelle, hein, la station debout, est rendue pas impossible, mais en tout cas compliquée. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui va de soi dans l'allure qui est remise en cause. Et puis il y a par ailleurs tout un aspect sonore qu'elle évoque à un moment donné, hein, qui est le fait qu'un sanglot c'est intrinsèquement sonore. C'est-à-dire, en fait, si on essaye d'éteindre le son, on éteint tout bonnement le sanglot. C'est vrai que c'est une manière de prendre aussi le pouvoir sur ce qui est émis par l'appareil phonatoire humain.
Pourquoi est-ce que vous expliquez, vous écrivez, même Estelle Ferrarese, que la philosophie n'a pas été apte à saisir la notion de puissance autrement que par un prisme binaire, l'impuissance comme étant l'autre face de la puissance? Qu'est-ce qu'on manque justement dans cette opposition simple et binaire en apparence?
Alors, effectivement, bon, c'est une critique que je mène surtout sur les pensées contemporaines de l'impuissance. Donc, qu'on peut trouver, par exemple, chez Giorgio Agamben ou Paolo Virno. En fait, ce sont des pensées qui ont l'air d'approcher ce que c'est que l'impuissance, mais toujours, en fait, immédiatement pour mettre le doigt sur le fait que ce serait le point de départ de la véritable puissance, que l'une et l'autre seraient intrinsèquement liées, que être impuissant, c'est toujours pouvoir un peu pouvoir. Mmh. Et donc, finalement, regarder l'impuissance dans ce qu'elle est, c'est quelque chose qui fait peur, je crois, en tout cas qui fait peur à la philosophie, qui a une longue histoire d'osmose avec la puissance, hein, la puissance de la volonté, la puissance de la pensée, etc., etc. Et donc, voilà, c'est ça, il me semble que ça valait la peine de nous arrêter pour la comprendre, non pas pour faire une apologie, évidemment, ça n'a pas de sens, c'est quelque chose d'extrêmement malheureux, mais s'arrêter pour voir très finement qu'est-ce que c'est que l'impuissance, qu'est-ce qu'il se passe et quelle est l'expérience qu'il est possible d'en faire.
Du point de vue de la philosophie, du point de vue aussi de l'enseignante en philosophie que vous êtes, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet objet si particulier, si singulier que sont les sanglots? Pourquoi aborder justement cette dimension a priori strictement physiologique par le prisme de la philosophie?
Alors, c'est peut-être que je le dirais dans l'autre sens. En fait, je suis un peu arrivée au sanglot parce que je cherchais à concilier alors un certain nombre de préoccupations philosophiques qui étaient à la fois des questions de genre.
On va y venir, bien sûr.
Des questions du corps, tout ça autour des questions que je me posais. En travaillant sur l'auteur qui m'a le plus influencé, qui est Théodore Adorno. Et en fait, pour lui être fidèle, ou pour être fidèle à un certain nombre de choses qu'il a écrites, je cherchais une entrée par un phénomène relativement petit. J'ai mis un petit moment en fait, à me dire mais qu'est-ce que ça peut être, parce qu'il parle tout le temps de micrologie, il parlait de ce que c'est qu'avoir un regard micrologique, hein, et de philosopher à partir de ça. Et je cherchais, et puis un jour, je me suis dit, mais les sanglots, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas été traité. Et plus je me suis en plus penchée sur la question, et plus j'ai vu que, de fait, il n'existait rien. Donc c'est petit, c'est peu exploré, et ça permet effectivement d'agripper beaucoup de choses de l'expérience humaine et de l'expérience contemporaine. Voilà.
L'analyse de Guillaume Leblanc, il s'exprimait dans le book club de Marie Richeux sur l'intention des larmes, c'était en mars dernier.
Je crois véritablement que les larmes sont une sorte de discernement sensible de quelque chose qui est vécu très souvent comme une injustice ou comme une injustesse. C'est cette expérience du drame de cette injustice qui surgit sans filtre dans les larmes. Ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans les pleurs, c'est que les larmes viennent à soi sans qu'on s'y attende. Il n'y a pas d'intentionnalité des larmes. Je ne décide pas de pleurer. Je suis pleuré. C'est pour ça que j'écarte d'emblée l'idée d'un cogito. Je pense donc je suis, je pleure donc je suis, n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, ce jeu qui se découvre dans les larmes, il est l'otage des larmes, en un certain sens.
Ce qui m'a frappé dans ses propos, c'est qu'il explique bien, très bien même, qu'il n'y a pas d'intentionnalité dans les larmes. Et dans le même temps, il y a une idée très très convenue, selon laquelle les femmes, nous y venons au genre, les femmes pleuraient parfois en étant insincères. Elles pleuraient justement, là cette fois-ci aussi, par technique, pour tenter d'amadouer leur interlocuteur. Alors comment est-ce qu'on peut conjuguer justement ces deux idées? Il y en a peut-être l'une d'entre elles qui est fausse.
Alors effectivement, il y a un soupçon qui s'attache aux pleurs, et tout particulièrement aux pleurs féminins depuis fort longtemps, avec cette idée que c'était que lorsqu'elles pleurent, c'est pour manipuler autrui, en particulier les hommes. C'est quelque chose qu'on va retrouver depuis l'Antiquité, jusqu'à chez Roland Barthes, hein, cette idée que il y a plusieurs types de pleurs, ce sont plusieurs types de chantage, ce qu'on trouve dans un fragment d'un discours amoureux. Donc effectivement, tout pleur, et, bon là du coup c'est plus large que les sanglots, hein, mais tout pleur qui a lieu en public est immédiatement mis sous enquête, sous suspicion, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais beaucoup plus chez les femmes, parce qu'on a tendance, et ça, pour en revenir à Diderot dont je parlais tout à l'heure, hein, lui aussi il le souligne, c'est un des rares philosophes à avoir écrit sur les sanglots de manière récurrente, et il dit, mais quand on voit un homme pleurer ou sangloter, on met beaucoup moins en doute la sincérité et la profondeur de sa douleur que dans une femme. Donc il y a vraiment une sorte
de... Il écrit de... effectivement la larme qui s'échappe de l'homme, vraiment l'homme, mais touche plus que tous les pleurs d'une femme.
C'est ça. C'est parce qu'il y a cette espèce de... Des fois, il y a déjà le fait que les femmes pleurent plus souvent, donc c'est moins dramatisé. En tout cas, c'est comme ça que c'est lu. Et il y a aussi le fait que donc il y a une sorte de discrédit a priori, qui se lie d'ailleurs, ce qui est ça qui est assez intéressant, en même temps au fait que les pleurs leur sont imparties. C'est-à-dire que non seulement elles sont autorisées à pleurer et à sangloter, mais j'allais dire, elles sont enjointes à le faire. C'est véritablement une subjectivité féminine qui repose de différentes manières, évidemment ça varie selon les époques, sur certaines manières de pleurer. Cette injonction à pleurer s'assortit de limites qui sont à la fois un blâme et ou une suspicion sur les motifs, d'un côté, et de l'autre, parfois, ça, carrément des interdictions ou des volontés de gouverner les corps sanglotants. Et ça, par exemple, ça s'est vu aussi bien dans l'époque grecque, où il y a toute une série de dispositions qui sont prises pour mettre en bon ordre les lamentations funéraires, qui sont en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, assignées aux femmes. C'est-à-dire qu'on leur donne la charge de prendre le deuil et de le mettre en scène et en son. Et ensuite, on redoute les débordements, et donc il va y avoir toute une série de prises de parole aussi, d'ailleurs, pas que législatives. Hein. Platon s'exprime sur le fait que les traînes doivent être strictement encadrées. Donc voilà, effectivement, la manière dont les pleurs, et plus encore les pleurs violents, sont tissés ou tricotés avec les femmes, enfin avec le genre, c'est quelque chose qui se tient dans sa double logique. D'un côté, une injonction à pleurer pour constituer une subjectivité féminine, et de l'autre, le faire dans certaines limites et dans certaines conditions seulement.
Et une troisième dimension, j'allais dire, hein, Estelle Ferrarese, une autre accusation même qui est portée, en tout cas une suspicion qui est portée, adressée aux pleurs et aux sanglots féminins, c'est peut-être l'accusation de dérèglement, le sanglot comme expression d'un mal-être, d'un dérèglement, d'un dysfonctionnement, même parfois d'une hystérie.
Oui, absolument. C'est quelque chose que... Alors, les sanglots font partie du descriptif que Charcot fait des phénomènes d'hystérie et notamment de la crise ultime. Hein. Ça fait partie des manifestations
des
nécessaires.
Symptômes.
Ouais, des symptômes, tout à fait. Et effectivement, il y a toute une inquiétude qui est faite, qui se révèle, par exemple, au XIXe siècle, une inquiétude sur ces dérèglements, ces débordements qui sont des pertes de contenance dont on soupçonne qu'ils peuvent peut-être un petit peu mettre en danger l'ordre des familles, notamment lorsque les femmes vont commencer à se passionnée de la lecture des romans, aux romans souvent sentimentaux, et qui effectivement occasionnent des larmes, des pleurs. Et là, il y a voilà, une sorte d'inquiétude quant à la capacité à se tenir dans le rôle qui est le leur.
Pourquoi est-ce que vous parlez de script genré des sanglots? Qu'est-ce que nous apporte de plus pour comprendre ce que sont fondamentalement les sanglots, cette notion de script justement?
Alors, oui, parce qu'au départ, j'essayais de penser ces sanglots comme quelque chose qui n'était pas un invariant anthropologique, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Et j'ai commencé à aller vers la notion de technique du corps de Marcel Mauss, hein, avec laquelle il décrit un certain nombre de phénomènes physiologiques qui, bien que renvoyant à des fonctions naturelles, sont en même temps des manières qui peuvent varier d'une culture à une autre. Hein. Il va parler par exemple du sommeil. Hein. Nous ne pouvons dormir que sur un oreiller, alors qu'il y a des guerriers Maasai hein, qui peuvent dormir debout. Il ne parle pas des larmes ou des sanglots, hein, mais il me semblait que ça, on pouvait appliquer la chose aux sanglots. Sauf que l'idée de script m'a semblé, j'allais dire, encore un peu plus pertinente parce qu'elle donne quand même à voir le poids que peut avoir l'industrie culturelle. Et quand je dis ça, ça n'est absolument pas, ça n'est absolument pas péjoratif et ça ne nie en rien la sincérité des personnes qui sont prises de sanglots. Hein. Mais les manières que nous avons de sangloter aujourd'hui sont des manières qui sont profondément conformées par ce que nous avons vu dans les séries et dans les films.
Mais c'est une notion qui est aussi appliquée à d'autres concepts, hein, le script amoureux, les scripts sexuels aussi pour évoquer peut-être les relations sexuelles qui se nouent avec parfois commodité ou j'allais dire automaticité. C'est cela que vous avez voulu aussi mettre en lumière, mettre en avant?
Absolument. Et j'aime beaucoup l'idée de script parce que justement, en fait, on peut parler presque de script hollywoodien, quoi. C'est vraiment, ça nous permet d'évoquer avec force le caractère construit, mais néanmoins, effectivement, spontané, deux choses étant intriquées, des sanglots.
La voix de Guillaume Leblanc, une nouvelle fois dans le Book Club, encore dans cette émission de mars dernier.
L'histoire des images vient construire aussi cette histoire des larmes. Et ça, c'est un point très important. On associe, par exemple, traditionnellement les pleurs aux femmes, mais ce n'est peut-être pas un hasard si, au tout début du XXe siècle, dans deux films absolument fondamentaux, Le cuirassé Potemkin de Eisenstein et La passion Jeanne d'Arc de Dreyer, on a au cœur du film une femme pleurant et une révolte politique qui naît de ces pleurs des femmes. Il y a donc un pouvoir des larmes, y compris dans leur capacité à faire révolte, à faire bataille.
Voire à créer des soulèvements.
À créer du soulèvement, justement. On est soulevé par les larmes et on se soulève. Il y a justement une puissance politique des larmes, là où traditionnellement on associe les larmes à une forme de faiblesse.
Une puissance politique des larmes, un pouvoir des larmes, Estelle Ferrarese, pour se soulever, pour se révolter, c'est quelque chose à laquelle vous croyez, vous aussi ?
Donc, pas vraiment. Autant, je crois qu'il y a quelque chose dans les sanglots qui relève d'une suspension, d'une logique ordinaire, suspension d'un rapport à soi, fabrication d'un temps, sécrétion d'un temps qui va contre le cours du temps. Il y a certainement une logique de protestation, une clôture sur soi qui est refus du monde, et par là qui est un propos sur ce monde. Ça, je le crois. Donc, il y a effectivement quelque chose de politique, mais encore une fois, c'est quelque chose d'infiniment petit. C'est minusculement politique. Autant là, pour le coup, cette théorie qu'on retrouve chez un certain nombre de philosophes hommes lorsqu'ils s'emparent du phénomène des larmes, hein, c'est-à-dire justement d'aller se dire, mais finalement, si on regarde bien, les larmes peuvent provoquer des émeutes. C'est aussi quelque chose que, par exemple, on va retrouver chez Georges Didier Oberman, hein, qui a, par ailleurs, a écrit un très beau livre qui s'appelle Peuples en larmes, peuples en armes. Et repartant, enfin, non, plutôt lui partant, puisqu'il l'a écrit avant de ce film d'Eisenstein également. Il y a cette idée de, voilà, il y aurait, comme point d'origine de la plupart des émeutes, voire des révolutions qu'a connues la planète, des larmes ou des sanglots. Et je pense que déjà, c'est probablement pas vrai, mais que de toute manière, ce n'est pas de cette manière-là qu'on va agripper, attraper la vérité des sanglots qui, pour l'essentiel, à notre époque, ont lieu en solitaire, ont lieu et s'arrêtent tout simplement, meurent sur nos lèvres, enfin, et s'arrêtent, et nous repartons dans le cours de la vie tel qu'ils étaient. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est mettre le doigt sur ça, sur ce moment qui vient rompre le cours de la vie quotidienne, qui est le moment d'une très forte présence à soi, d'une présence douloureuse à soi, qui est effectivement une protestation contre ce qui vient d'arriver, qui est une attaque de l'ordre somatique, mais de là à dire que c'est le point de départ d'une nouvelle puissance politique, alors là, telle qu'elle a été définie de manière très genrée, très traditionnelle, comme le fait de finir par prendre des pavés et les envoyer contre les gouvernements, je pense que ça, c'est autant irréaliste que problématique dans la mesure où ça dissimule l'essentiel de ce qui se passe dans les milliards de sanglots qui se passent à l'heure actuelle sur cette planète.
En quelques mots, Estelle Ferrarese, j'en reviens à la question initiale de cet entretien. En quoi les sanglots sont-ils aussi un langage, un topos de la philosophie, pour reprendre là aussi l'expression que vous dessinez dans cet ouvrage?
Lorsque j'ai écrit ça, c'était pour... C'était à propos des pleurs, et effectivement on retrouve régulièrement, lorsqu'ils sont évoqués, ce qui n'est pas si fréquent que ça, mais lorsqu'ils sont évoqués, cette idée que les pleurs sont un langage, que par exemple on trouve ça chez Rousseau, c'est-à-dire que les pleurs seraient le premier langage de l'enfant, qui ensuite ça s'interrompt quand on arrive à un langage plus articulé. Moi ce que j'essaye de dire, c'est que les sanglots, là, dans à la limite, la seule chose qu'ils disent, c'est non au monde. Ils ne disent pas plus que ça. Donc, ce n'est jamais un argument, ce n'est jamais un appel. La seule chose qu'ils vont faire, ça va être en quelque sorte museler autrui. Donc, c'est vraiment pas véritablement un langage.
Merci beaucoup, Estelle Ferrarese. Je rappelle que vous êtes professeure de philosophie, morale et politique à l'Université de Picardie, et vous faites donc paraître ces derniers jours ce très très bel ouvrage intitulé « Une philosophie des sanglots ». C'est aux éditions Rivage. Merci d'être venue ce soir à Question du Soir.
Merci à vous.